Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Une chanson d'amour à Auschwitz, Le pouvoir de l'amour dans l'endroit le plus sombre du monde, est un roman historique de Mario Escobar situé à Auschwitz en 1943. Le récit suit David, jeune prisonnier juif dont le chant se fait entendre au sein du camp, et Helen Spitzer, détenue affectée au nettoyage des uniformes des soldats. Entre eux naît un attachement que le système concentrationnaire rend à la fois improbable et dangereux. Le roman ne présente donc pas Auschwitz comme un simple décor tragique. Pour une romance, il place l'émergence d'un lien affectif face à une organisation construite pour déshumaniser, isoler et détruire. Escobar poursuit ici son exploration romanesque de la persécution nazie et de ses effets sur les individus. Son propos central consiste à interroger ce qui peut subsister de l'identité, de la sensibilité et de la responsabilité morale lorsque les conditions de survie sont extrêmes. La lecture aborde des violences explicites et un cadre historique particulièrement éprouvant. Elle demande ainsi de distinguer la fonction romanesque de l'histoire d'amour de la réalité irréductible du génocide. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, l'amour comme affirmation fragile de l'humanité dans un univers de déshumanisation. Le titre annonce une tension fondamentale, parler d'amour à Auschwitz ne revient pas à adoucir le camp, mais à mesurer la fragilité d'un sentiment dans un lieu conçu pour nier la personne. David et Helen ne disposent ni d'un espace privé stable, ni de la liberté nécessaire à une relation ordinaire. Leur rapprochement prend donc sens parce qu'il contredit l'isolement imposé aux détenus, la réduction des êtres à des tâches, des numéros et une utilité provisoire. Le roman invite à comprendre l'amour moins comme une promesse de salut que comme une reconnaissance, voire encore en l'autre, un individu singulier, digne d'attention, dans un environnement qui organise précisément son effacement. Cette perspective évite de transformer les protagonistes en figures héroïques abstraites. Leur lien demeure exposé à la peur, à la séparation et aux contraintes matérielles du camp. Il ne supprime ni la violence ni le désespoir. Il crée de manière limitée une possibilité de présence humaine. C'est cette disproportion entre la brutalité du système et la modestie des gestes affectifs qui donne au thème sa portée. Escobar s'inscrit ainsi dans une tradition de fiction historique où les liens personnels servent à rendre perceptible l'impact intime d'un crime de masse, sans que l'intime puisse en épuiser la signification historique. Deuxièmement, le chant de David, une expression personnelle confrontée à la machine concentrationnaire. La chanson qui traverse Auschwitz constitue l'image directrice du roman. La voix de David n'est pas seulement un attribut romanesque destiné à susciter l'émotion, elle représente une forme d'expression personnelle au milieu d'un système qui cherche à contrôler les corps, les déplacements et jusqu'aux possibilités de parole des prisonniers. Le contraste est particulièrement fort parce que David est chargé de transporter les corps des victimes vers les crématoires. Sa capacité à chanter se trouve ainsi placée à proximité immédiate de la mort industrielle, ce qui rend impossible toute lecture simplement consolatrice de la musique. Le chant ne répare pas les destructions et ne garantit aucune protection, il manifeste plutôt la persistance précaire d'une mémoire, d'une sensibilité et d'une individualité. Pour Helen, qui entend cette voix depuis son propre travail imposé, elle devient aussi un point de contact avant même qu'une relation se forme. Elle permet de percevoir quelqu'un au-delà de sa fonction de détenu. Le roman utilise donc la musique comme un langage de reconnaissance dans des conditions où les échanges directs sont risqués et limités. Ce choix rappelle que l'art, dans une fiction sur la persécution, peut avoir une valeur de témoignage émotionnel sans devoir être présenté comme une réponse suffisante à la violence historique. Troisièmement, le travail forcé révèle la logique concrète de domination au camp. Les fonctions attribuées à David et à Helen donnent au récit une dimension matérielle essentielle. David est affecté au transport des corps des victimes jusqu'au crématoire. Helen nettoie les uniformes des soldats. Ces activités ne sont pas de simples éléments de décor, car elles montrent comment le camp impose aux détenus une proximité forcée avec les instruments, les traces et les conséquences de la violence nazie. Le travail est ici un mécanisme de domination, il épuise, hiérarchise, surveille et oblige les prisonniers à participer, sous contrainte, au fonctionnement quotidien de l'institution qui les opprime. Le contraste entre les deux tâches met aussi en évidence la division des expériences carcérales. David affronte directement les conséquences du meurtre de masse, tandis qu'Hélène est placée au contact des signes matériels du pouvoir des bourreaux, les uniformes. Cette répartition ne permet pas de comparer mécaniquement les souffrances. Elle souligne plutôt que la déshumanisation agit par des voies diverses. En inscrivant la relation des personnages dans leurs affectations respectives, le roman évite de faire de l'amour une réalité détachée du contexte. Chaque possibilité de rencontre est conditionnée par les horaires, le danger et l'arbitraire. La vie affective devient alors indissociable des structures de contraintes, ce qui renforce le caractère oppressant du cadre historique. Quatrièmement, une fiction historique qui doit maintenir la mémoire du génocide au premier plan. Le choix d'une histoire d'amour dans le cadre d'Auschwitz pose une exigence éthique propre à la fiction historique, susciter l'empathie sans convertir la catastrophe en simple toile de fond dramatique. Les informations disponibles sur le roman signalent une représentation directe et parfois difficile des atrocités nazies. Cette dureté a une fonction rappelée que le récit sentimental se déploie dans un univers de persécution, de travail forcé et d'extermination, non dans une adversité générique. La lecture demande donc une vigilance particulière. L'intérêt d'un tel livre ne réside pas dans la recherche d'un dénouement rassurant, mais dans l'examen de ce que deviennent l'attachement, la peur et la dignité sous une violence systématique. En centrant l'attention sur deux détenus, Escobar adopte une échelle individuelle qui peut rendre l'histoire plus immédiatement accessible. Mais cette focalisation ne saurait résumer l'expérience des victimes ni remplacer les travaux historiques et les témoignages de survivants. Elle fonctionne plutôt comme une porte d'entrée émotionnelle vers une réalité collective dont l'ampleur excède nécessairement le destin des personnages. Le roman se distingue lorsque cette articulation reste claire, l'émotion est mise au service de la mémoire, et non l'inverse, pour le lecteur. Il est utile de recevoir cette œuvre comme une fiction inspirée par une période documentée, à compléter par des sources historiques rigoureuses sur Auschwitz et la Shoah. En dernier lieu, la dignité, le sacrifice et l'entraide sans promesse de rédemption facile. Une chanson d'amour à Auschwitz explore la dignité humaine dans une situation où les choix libres sont profondément restreints. Ce thème ne doit pas être compris comme l'idée que les victimes auraient l'obligation morale de se montrer courageuses ou altruistes. Dans un camp de concentration, survivre dépend de facteurs souvent hors de portée des détenus, violences arbitraires, faim, maladie, séparation et décision des autorités. La portée du roman tient plutôt à la manière dont il fait de certains gestes, écouter, protéger, se souvenir, risquer un contact, des actes dont le prix est accru par le danger. L'attachement entre David et Hélène permet d'examiner cette zone étroite où l'entraide demeure possible sans être jamais assurée. Le sacrifice, s'il apparaît, ne prend de sens que par cette absence de garantie. Agir pour autrui ne conduit pas nécessairement à une récompense, ni même à la sécurité. Cette approche donne au récit une gravité différente d'une romance historique conventionnelle. L'amour n'y est pas une force magique qui annule la réalité du camp. Il est une manière de préserver, temporairement et imparfaitement, une relation humaine face à une logique d'anéantissement. Pour cette raison, les notions de dignité et d'espoir restent liées à la lucidité. Elles désignent une résistance intérieure ou relationnelle, non une victoire qui viendrait compenser l'irréparable. En conclusion, ce roman s'adresse surtout aux lecteurs de fiction historique consacrés à la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu'à ceux qui cherchent une approche romanesque des enjeux humains liés à Auschwitz. Il conviendra davantage à un public prêt à affronter un cadre violent et émotionnellement lourd qu'à des lecteurs recherchant une romance légère ou un récit historique purement documentaire. Son principal apport intellectuel est de faire réfléchir aux conditions concrètes dans lesquelles un lien humain peut émerger, non pas en dehors de la terreur, mais sous la surveillance, le travail forcé et l'incertitude qui structurent la vie concentrationnaire. Il peut aussi encourager une lecture plus attentive de la manière dont la fiction représente la Shoah, notamment de la nécessité de ne jamais dissocier le destin individuel des mécanismes collectifs de persécution et d'extermination, par rapport à d'autres romans situés durant la période nazie. Une chanson d'amour à Auschwitz se distingue par l'importance accordée au chant comme signe de singularité et comme point initial de reconnaissance entre les protagonistes. La relation entre David et Hélène est également ancrée dans des tâches imposées qui les placent au contact direct de la violence du camp, plutôt que dans un décor historique lointain. Cette proximité donne au livre une intensité particulière tout en expliquant sa difficulté de lecture. L'ouvrage n'est pas un substitut au témoignage ni à l'histoire savante. Sa valeur réside dans une mise en récit sensible de la déshumanisation et de ses résistances fragiles. Lu avec cette réserve, il offre une méditation accessible mais exigeante sur la mémoire, la dignité et les limites de l'espoir. Si vous souhaitez soutenir Mario Escobar, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.